C'est qu'on a la concurrence quand même.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crop,
des
bang,
et des
zichibam, pam, blanc.
Bonjour, chers amis de Radio B. Eh oui, c'est bientôt Noël. Cruel dilemme sur le choix des cadeaux, surtout cette année, entre la voix de Jean d'Ormesson et les textes de Johnny Hallyday. J'ai dit une bêtise, ça doit être l'inverse, quoi. Nous avons fait en plate auprès de nos fournisseurs habituels une sélection qui nous fera voyager et rêver avec forcément de la musique. Bienvenue sur Radio B, Picbull, c'est nous, soit Radio BD avec Anne. Bonsoir Anne.
Bonsoir Jean-Marc.
Et Jean-Marc, c'est moi-même. L'équipe de choc qui tombe à pic. Soit un mauvais jeu de mots. Hein. Voilà. Donc, on peut démarrer avec notre première sélection musicale.
Oui, exactement.
On y va. C'était un peu long, mais c'est normal, c'est une longue traversée.
Voilà, et c'est un slove.
C'est un slove, on n'a pas envie de s'arrêter.
À tous toutes les personnes qui ont connu les booms, voilà. Il est forcément dû Rod Stewart.
C'était Rod Stewart.
Oui, et le titre de la chanson.
C'était Sailing.
Oh.
Et c'est pour ça qu'on va monter sur un bateau.
Oh oui, tout à fait.
Et ça, la traversée va durer assez longtemps quand même.
Oui, le temps d'une aventure d'un jeune homme qui s'appelle Petit Roux. Et effectivement...
J'irais même plusieurs aventures. Hein,
plusieurs aventures, effectivement. Un récit emboîté dans un autre et avec une multitude de personnages pour une aventure qui est vraiment très intéressante. Parce que c'est un hommage évidemment à Spirou, mais de façon remarquablement émouvante.
C'est un hommage à Spirou, c'est un hommage à Dupuy.
Tout à fait. Mm-hmm. C'est un hommage au dessinateur.
Au magazine Spirou.
Au magazine Spirou, le journal de Spirou, oui, effectivement. Et pourtant, sans doute pas, au début de l'album. Personnellement, lorsque tu m'as mis entre les mains cet album en me disant « lis ça, c'est très bien », je me suis dit « ça me rappelle Spirou, évidemment, puisque quand on voit la couverture, on voit ce joli petit groom qui saute en l'air, et il y a un magnifique paquebot avec cette vue qui est très, très marquée sur le plan graphique, cette proue magnifique, qui montre toute la puissance du bateau. » Et effectivement, je ne m'attendais pas à cet hommage à Dupuy. Mais toi, tu as vu effectivement toutes les références. Hein.
C'est extraordinaire, parce qu'il s'appelait Petit Roux.
Oui.
Donc, il ressemble beaucoup à Spirou.
Oui.
On saura pourquoi à la fin, mais peut-être qu'on racontera pas la fin.
Non, on la laissera au plaisir du lecteur.
Ce serait vache.
Oui, ce serait épouvantablement cruel.
Mais c'est basé sur toute la culture de Spirou.
Oui.
C'est-à-dire qu'on commence par les belles histoires de l'oncle Paul.
Oui, tout à fait. C'est un Noël, effectivement, où les enfants donc vont chez leur oncle Paul et Paul va raconter une histoire. Et on est en 1959 et il raconte une histoire qui se passe en 1929.
Et dans le magazine Spirou, moi je m'en rappelle bien, il y avait les histoires de l'oncle Paul.
Oui.
Qui souvent étaient adaptées de faits réels.
Mmh.
Par contre, il les tordait un petit peu.
D'accord, c'est-à-dire
C'était
pour être adapté au jeune lectorat.
Voilà.
Oui, carrément. Oui.
Non, mais Spirou, c'était un bon magazine, quand même.
Oui. Donc, l'histoire.
Ah, l'histoire. Très dur à raconter. Hein.
C'est l'histoire, en fait, de plusieurs personnages. Donc, d'un côté, effectivement. Le responsable des chantiers donc de construction de bateaux à Saint-Nazaire, qui se trouve à devoir faire face à des problèmes économiques, puisque nous sommes en 1929, c'est la crise économique mondiale venue des États-Unis, et donc évidemment, il est obligé de licencier une partie des ouvriers.
Et on l'oblige à le faire.
Et là, donc ce grand industriel est veuf, et il lui reste donc sa fille unique, et ils vont partir tous les deux faire une traversée de l'Atlantique sur un des bateaux qu'ils possèdent. Pour des raisons de santé. Et donc effectivement, cette petite fille doit prendre son médicament très régulièrement parce qu'elle a des problèmes de cœur. Et donc de l'autre côté, à l'opposé, se trouve donc le jeune petit roux qui en fait cherche du travail et veut traverser l'Atlantique pour aller travailler aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est un acrobate de cirque qui, a perdu sa maman.
Voilà.
Qui est morte en fait au cours de
ce numéro.
Elle est tombée parce que
c'était un cirque un petit peu. De grande voix.
Il n'avait plus assez d'argent pour pouvoir remplacer des sangles défectueuses. Voilà. Et comme ce sont des acrobates de haute voltige, en fait, évidemment, les sangles ont cédé et la maman est tombée et morte d'une chute mortelle.
Et ce qui est marrant, c'est que donc il arrive à s'embarquer.
Oui.
Sur un bateau, mais en cachette, quoi.
Oui. Disons qu'il tombe sur du personnel qui sympathise, en fait, qui lui propose de monter sur le bateau. Et il se fait engager parmi les grooms. Effectivement, on voit sur ce bateau comment fonctionne, en fait, un paquebot avec tous les niveaux hiérarchiques du personnel.
Exactement. Et la première rencontre qu'il fait, c'est un... Je l'appelle Clark Gable parce que lui ressemble.
Oui.
C'est un Américain dont l'avion est embarqué de.
Exactement, un hydravion, oui, tout à fait, est embarqué sur le paquebot.
Voilà. Et il le découvre et c'est lui qui le présente.
Oui.
À la commanderie.
Parce qu'il s'était embarqué effectivement de façon clandestine et comme ils ont sympathisé tous les deux, donc le petit roux et l'aviateur, en fait, l'aviateur le soutient pour être quand même embauché sur le bateau.
En fait, ce petit roux, il va avoir beaucoup de chance,
oui.
Puisqu'il va faire des belles rencontres.
Oui.
Bon, après, moi, ça me fait penser à Métropolis de Fritz Lang, qui a plein d'étages dans le bateau.
Oui.
Donc, en bas, c'est...
Ce sont ceux qui travaillent à la chaudière.
Voilà, donc ils sont sales, etc. Oui. Et puis lui, le petit groom, il va être embauché comme petit groom. Il est tout propre et puis il a affaire à de belles personnes.
Oui.
Des gens qui ont de l'argent, etc.
Effectivement, il est entre les deux classes sociales, c'est-à-dire entre les opposés, enfin plus exactement les extrêmes. C'est-à-dire d'un côté ceux qui travaillent à la chaudière et puis de l'autre, évidemment, les passagers qui font partie de la première classe. Et il se trouve qu'il y a des rivalités donc, entre les grooms d'un côté et puis donc, les crasseux, ceux qui se trouvent à travailler à la chaudière. Et les crasseux provoquent régulièrement les grooms.
C'est les crasseux qui font avancer le bateau.
Oui, tout à fait. Et qui provoquent les grooms pour leur piquer les boutons dorés de leur uniforme.
Voilà, c'est une monnaie d'échange quelque part.
Oui, exactement, tout à fait.
Donc il vaut mieux pas qu'ils descendent au sous-sol, dans
tout
les cales.
Oui.
Mais il va avoir beaucoup de chance, toujours. Il s'en sort toujours très bien. Moi, il prend des raclées, hein, quand même, de temps en temps.
Mm-hmm.
Et il va arriver à croiser cette jolie jeune fille.
Oui.
Qui est malade. Et le père de cette jeune fille va lui faire confiance.
Oui.
Et il va lui demander de l'accompagner.
Mmh.
Et de la soutenir dans plusieurs difficultés qu'elle aura.
Oui, tout à fait. Notamment à l'égard d'un problème lié à la prise de son médicament. Donc, oui, c'est un album composé de récits d'aventures. Et comme tu me l'avais fait remarquer quand on en a parlé la première fois, il y a toute une série, justement, c'est un hommage à Dupuis. Donc, on peut voir au fil des pages, en fait, surgir à droite et à gauche des personnages qui ressemblent donc à des incontournables de la maison Dupuis. Donc, voilà. Notamment, tu avais vu Uderzo et Goscinny.
Goscinny,
ouais. Oui, qui traînent dans le bateau.
J'ai vu Gabin aussi. Enfin,
oui.
Il y a beaucoup de références.
Oui, tout à fait.
Mmh. Et c'est très, très agréable. C'est oui. Très bien dessiné.
Oui, c'est un album de grande taille. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît la série des one-shots de Spirou, donc, qui sont absolument magnifiques, comme par exemple le Groom Vert de Gris, qui raconte la période d'occupation de la Belgique par les Allemands.
Je connais.
Donc, il est absolument magnifique. Et là, à nouveau, on a un one-shot et on peut... On peut apprécier justement le fait que chacun de ces one-shots a un style complètement différent. Si moi je conseille une chose, pourtant Dieu seul sait que j'aime beaucoup la série Spirou et Fantasio, mais c'est que, et une certaine continuité donc dans la série, hein, depuis Franquin jusqu'à Fournier et ceux qui donc leur ont succédé, mais c'est que les one-shots en fait offrent une variété vraiment extrêmement intéressante. Et celui-ci est particulièrement, je trouve, réussi parce qu'en fait, c'est un hommage extrêmement émouvant sur la genèse, justement.
Avec un style de dessin qui est quand même très personnel. Hein.
Oui, exactement.
Ça change, c'est pas du Franquin. Hein.
Non, tout à fait. On n'est pas dans une imitation du style qui est celui de Franquin et qui effectivement a porté le personnage de Spirou à être...
La petite jeune fille
oui.
Dont il tombe amoureux me fait penser à Natacha.
Ah oui, tout à fait, exactement. Oui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé tout de suite, mais il y a de ça. Avec effectivement sa petite coupe au carré, oui, elle est tout à fait ravissante. Et donc, moi, j'aime beaucoup en fait cette ambiance de dessin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de hachurés. Les personnages sont pour certains à la limite de la caricature, et les enfants, par contre, sont dessinés de façon très proportionnée, c'est-à-dire en fait très proche des proportions réelles. Donc, en fait, le fait de faire côtoyer les deux est intéressant parce qu'on a à la fois en fait, avec les caricatures, l'imaginaire, l'imagination, et puis de l'autre, avec des décors extrêmement précis. Quand on voit, par exemple, ne serait-ce que le dessin des voitures, on a un détail qui montre bien que tout est extrêmement documenté.
Tout ce qui est machine.
Oui, tout à fait.
Très bien dessiné.
Donc, justement, c'est ça qui rend, c'est toujours la même chose, hein, c'est ça qui donne de la puissance à la fiction, c'est-à-dire, en fait, évidemment, le sens du détail qui rend le récit plausible. Et donc l'utilisation de l'avion, alors ça c'est aussi très intéressant, l'utilisation de l'avion au cours de l'une des multiples aventures de Petit Roux, donc de l'avion sur le bateau, la façon dont l'avion part du bateau puis revient du bateau en passant par New York, donc c'est vraiment très bien fait, très bien pensé et il y a vraiment un suspense très très intéressant. Voilà, donc c'est un hommage à la bande dessinée, c'est-à-dire que en fait, ce fameux gaufrier qu'on aime tant n'est pas déstructuré pour une mise en page, j'allais dire...
Ça dépend des pages.
Oui. Mmh.
En fait, quand on est dans la partie l'oncle Paul oui. raconte, c'est mmh. très strict. Et en oui. plus, c'est en gris.
Enfin, oui. Enfin, moi, je trouve que tout au long de l'album, on ne change pas beaucoup, en fait, cette mise en page.
Et pour autant, on a quand même des grandes cases. Hein.
Oui, un peu plus grandes, effectivement, mais pas forcément très grandes. Tu ne verras jamais, par exemple, une case qui prendra ne serait-ce qu'une demi-page. Tu vois, tu n'en as pas. Après, c'est peut-être l'effet de concentration lié justement au camailleux de bleu-gris que tu as sur, sur la première partie du récit qui justement est en 1959. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu as l'effet en fait du bleu-gris, enfin qui n'est pas du sépia, hein, en 1959. Or, le flashback dans le flashback, c'est-à-dire 1929, est fait, évidemment, puisque c'est le plus gros du récit, avec les couleurs de la vision normale.
Mais quand on voit le paquebot dessiné, mm-hmm. il est les cases s'écartent mm-hmm. un petit peu.
D'accord.
Oh, on ne serait peut-être pas d'accord, mais...
Bien, écoute...
C'est par rapport au déplacement du cargo.
Ah oui, oui.
Autrement, on est un peu... la case nous confine dans les cabines.
Oui.
Mm-hmm. On est dans les cabines, dans les couloirs, etc.
Oui. Mais en même temps, la mise en page ne joue pas trop sur ce confinement propre aux coursives en fait, des bateaux. Mais en même temps, on voit bien, c'est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas effectivement pris à l'étroit dans le bateau. On peut apprécier, on peut le relire plusieurs fois en appréciant en fait, les détails de vie sur un paquebot. Mmh. Voilà, donc...
Et amusez-vous à retrouver les personnages.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a Hitchcock aussi, hein. Mmh. Je crois qu'il y a Gabin.
Oui.
Enfin, il y a plein de gens qui sont assez connus.
Oui.
Mais il faut s'attarder un tout petit peu là-dessus.
D'accord.
C'est marrant.
Oui, 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 tout à fait, effectivement. Alors, on rappelle effectivement le titre de l'album. Donc, c'est « Il s'appelait Petit Roux » de Véron et Sente. C'est aux éditions Dupuis, évidemment.
Forcément.
Et comme c'est Noël, alors on va tâcher de trouver le prix. Parce qu'il faut donner le prix, hein, n'est-ce pas? Étant donné que ça demande quand même de sortir effectivement son... Je ne sais pas, ça doit être aux alentours de 20 €, hein, maintenant. Les beaux albums comme ça, ça doit être... Non, il n'y a pas d'indication. Arg. Mais bon, voilà. Donc aux alentours de 20 €. Oui, arg. Voilà. Donc, une petite pause musicale.
Ouais, puis c'était un bon conseil. Ouais.
Oui.
Vous aurez tous reconnu, enfin en tout cas pour les gens de ma génération, Orchestral Maneuvers in the Dark. Voilà, pour les habitués, c'est plutôt OMD, ouais, c'est plus simple.
Pour les branchés, tu disais.
Oui, pour les habitués, c'est...
Pour les branchés, pour ceux qui sont dans le move. Pour les ringards, c'est Orchestral Maneuvers in the Dark.
Oui. Dans le move, bon, ça date quand même des années 80.
Dans le move, mais justement, nous sommes en pleine mode des années 80. Et donc.
Oui, bah, ça nous amène. C'est un air un petit peu de science-fiction, tout ça. Hein. Mm-hmm. Et ça nous fait redécouvrir. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu.
Un album de lui.
Mm-hmm. Enki Bilal.
Enki Bilal. Avec un album d'une taille, j'allais dire, aux dimensions, enfin, d'un album aux dimensions inférieures aux albums habituels de Bilal, qui sont plutôt de grande taille.
Est-ce que c'est pas volontaire ?
Je ne sais pas. Tu sais, dès qu'on passe en dessous d'une certaine taille, on est en droit de se dire si ça sent pas le comics.
Non, mais il y a un problème de fabrication et un problème de coût de fabrication.
Oui, oui, mais après, il y a aussi un problème de prix quand tu vois le coût de celui-ci. Ah, ça laisse Jean-Marc sans voix.
Non, mais il n'est pas cher.
Oui, il n'est pas cher. Oui, t'as intérêt à ne faire qu'un seul cadeau pour Noël, mais à part ça, il n'est pas cher. Non, ouais, non, je...
Bon.
Il coûte 18 euros. Mais on va quand même donner son titre. Hein.
Ouais, allez, ça s'appelle Bug. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Bug?
Eh bien, sur la quatrième de couve, oui, alors bon, Bug, B-U-G. Donc, oui, en tant qu'anglophile averti, oui. Donc Jean-Marc, tu me diras, mais Bug, Anne, ça veut dire insecte, bestiole, mais ça veut dire aussi virus, c'est-à-dire que sur la quatrième de couve, on nous dit bien que, en français, c'est un défaut affectant un programme informatique. Moi, je dirais pas un défaut, je dirais que c'est un autre programme qui affecte le fonctionnement en fait d'un système d'exploitation jusqu'à... Oui, pardon.
Non, non, mais je t'écoute.
Et si en plus de ça, c'est un virus, effectivement, il a tendance à se propager. Voilà. En anglais, donc, c'est un bug. Il se trouve que Monsieur Enki Bilal, qui est à la fois au dessin et au scénario, a combiné les deux à travers une histoire qui se passe en 2041. Alors, 2041, qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc? Alors, attends, moi, tu vas lire la phrase. La Terre est confrontée.
Oui, brutalement et simultanément, aux deux. C'est-à-dire le bug, en français, et le bug en anglais, qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose, mais en fait c'est la même chose. Et un homme seul se retrouve dans la tourmente, convoité par tous les autres.
Alors bon, alors, moi, c'est vrai que ça veut tout et rien dire, hein, la quatrième de couve, ils ne sont pas foulés. Hein.
Non, pour écrire, c'est pas terrible.
Alors, je vais quand même donner un petit peu plus d'explications sur l'histoire. Comme ça, ça permettra effectivement à ceux qui veulent dépenser 18 euros de sentir qu'ils ne se sont pas fait avoir, parce que bon, il a quand même un certain intérêt, cet album. C'est qu'il s'agit effectivement d'une équipe qui, tout comme chez Bilal, on retrouve souvent cette disposition en fait dans le récit. Il y a d'un côté effectivement une équipe de cosmonautes ou astronautes, bon, qui arrivent dans une station donc orbitale pour se rendre compte que en fait tout l'équipage est mort sauf une personne.
Oui,
ils ont tous en commun
d'avoir
effectivement un trou dans le cou à l'intérieur duquel se trouve une espèce de verre de quelques centimètres qui a tué une partie de l'équipage et il se trouve qu'il y a un survivant. Et ce survivant, en fait, a accepté son hôte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion entre le ver et celui qui est occupé par ce ver.
Donc le ver ne reste plus solitaire.
Ouf, Jean-Marc, bravo. Le ver n'est plus solitaire, effectivement. Et donc, il se trouve que, parallèlement, effectivement, à cette étonnante découverte sur Terre, donc a lieu un immense bug informatique qui touche, en fait, tous les serveurs simultanément et toutes les données accumulées sur les serveurs disparaissent au même moment. Ce qui signifie que, en fait, eh bien, il n'y a plus rien pour pouvoir, maîtriser les activités humaines, qu'elles soient économiques et autres, et en fait, toute l'humanité, oui, tout à fait. Et ce qui est très fort, moi, je trouvais dans cet album, même si, bon, il y a des points que j'ai trouvés plus faibles, mais je veux dire, ce que je trouve très fort, c'est le moment où Enki Bilal fait un portrait de l'impact, donc, de l'absence de numérique dans la société sur les êtres humains. Et donc, il décrit des êtres humains complètement à la dérive parce que, justement, ils n'ont plus leur smartphone, parce qu'ils n'ont plus Internet, parce qu'ils n'ont plus, en fait, tous ces substituts qui leur permettent de vivre au quotidien, mais qui, en même temps, leur a retiré, en fait, des aptitudes qui sont propres aux aptitudes humaines, à savoir, donc, tout ce qui est mémorisation.
Et ça, c'est des choses qu'on a déjà trouvées dans la science-fiction,
oui.
Où le jour où tout s'arrête.
Oui.
Alors, je ne me rappelle plus, c'est Asimov, je crois.
Mm-hmm.
Le jour où le monde s'arrêta.
Je vois le film, mais par contre, je ne connais pas...
Je crois que c'est Asimov. Mm-hmm. C'est parce qu'il n'y a plus rien.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ça serait surprenant demain de se retrouver sans, sans aide au bout des doigts.
Mm-hmm. Oui.
Ou autour de la tête.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, c'est intéressant. En même temps... j'ai un reproche à faire à cet album, c'est que Bilal, ça fait très longtemps que je le lis. Au début, il était très proche de Moebius.
Oui. Donc il y avait une dimension très poétique, en fait, justement, un peu dingue, qui manque peut-être à cet album.
Et ça, bon, de plus en plus, il a une tendance un petit peu à la noirceur. Mm-hmm. Et en plus, dans celui-là, je trouve que c'est une noirceur simplifiée.
Mais on est plus sur un thriller assez classique. On pourrait presque se croire dans une... avec bon, l'esthétisme propre à Bilal, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il s'est toujours aussi bien dessiné.
Ah, c'est clair.
Mais on retrouve Paris. En fait, il y a certaines petites choses qui ne sont pas sans rappeler, mais de loin quand même, la foire aux immortels, qui a posé auprès du grand public donc, tout son cadre, enfin je veux dire, sa signature esthétique. Mais là, on est sur une enquête qui est un peu un classique, c'est-à-dire que là où lui, il était un peu, entre guillemets, d'avant-garde, là, il est un peu, comment dire, il suit le mouvement actuel concernant donc la réflexion sur la place du numérique dans nos sociétés, que ce soit à travers la transhumanité ou à travers la surabondance des data. Voilà, c'est-à-dire des données enregistrées sur les serveurs.
Bon, c'est pas le premier à avoir fait ça.
Oui.
Il y a
tout à
beaucoup
fait.
De gens qui l'ont fait bien avant.
Mm-hmm. Ah ben, si on choisit de parler effectivement de l'auteur de Ghost in the Shell, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus abouties sur ces questions-là, sur effectivement une société complètement tributaire des réseaux et qui finit par devenir totalement aliénante. Oui.
Moi, je trouve qu'il y a une petite dérive mm-hmm. de facilité. Mais oui. Je suis méchant quand j'ai dit ça. Le dessin est toujours superbe.
Oui. Mais après, moi, je dirais qu'il y a eu des albums de lui que j'ai eu du mal, en fait, à suivre. C'est-à-dire que tu parlais de noirceur, mais il y a des albums... moi, je suis contente de le retrouver quand même, de retrouver un certain sens du récit, même si on peut considérer que c'est moins extraordinaire que La foire aux immortels.
Mmh.
Voilà.
Et on peut parler de ses films, hein, des
oui.
films qu'il a fait, qui sont... Mmh. Esthétiquement très beau.
Oui, Bunker Palace Hotel, pardon. Oui.
Oui.
Avec Jean-Louis Trintignant.
Et puis
La foire aux immortels. Oui, immortel, pardon. Oui.
Mmh. Et excessivement très creux. Très beau et très creux. Je suis méchant.
Immortel, j'ai trouvé que c'était très bien.
Mmh.
Oui. Immortel, c'était réussi parce que justement, il avait bien fusionné en fait La foire aux immortels avec La femme piège. Et c'était réussi. Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Oui. Très intéressant, et puis esthétiquement parlant, il avait trouvé bonne...
Esthétiquement, il n'y a aucun problème.
Oui, mais ça collait bien au récit, oui. Alors, donc, Enki Bilal, bug. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est le livre 1, donc il est à supposer que ce soit en deux parties, et c'est vrai que ça, c'est assez surprenant
chez
Bilal.
C'est comme la Bible, il y a plusieurs livres.
Oui, voilà. Donc, nous sommes sur le livre 1, voilà, et c'est chez Casterman, donc l'éditeur habituel de Enki Bilal. Voilà, donc nous rappelons que ça coûte 18 euros pour les personnes qui ont envie de l'offrir à Noël. Et je pense que c'est quand même un assez joli cadeau, sachant que ça nécessite quand même d'avoir la deuxième partie. Hein, parce que bon, suspense, on ne sait pas trop ce qui va arriver aux personnages principaux.
Ça fait 36 euros les deux parties, hein.
Oui, tu as bien calculé, oui, 36 euros, oui.
L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, tatatin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur, sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés.
assise sur une bite d'amarrage. Elle pleure, son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira.
Vous avez compris que c'était de la poésie. Hein.
Et c'était
Monsieur Renaud.
Voilà.
Non, j'ai confondu avec Citroën, mais bon,
oh là,
ça c'est personnel.
Oui, ouais, et chantez quoi, Monsieur Renaud?
C'est la mer qui prend l'homme, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend
oui,
l'homme.
Oui, voilà.
Oui, bah, de toute façon, Vincent veut mêler les pinceaux dans cette histoire. Donc tout ça pour vous présenter un album qui s'appelle, il faut faire attention à la prononciation, Aquarica.
Et non Arabica.
Oui, parce que c'est du café autrement.
Oui.
Et alors, donc Aquarica, donc aqua, c'est
l'eau.
L'eau, on a compris. Et Rica, c'est Rica Lewis, c'est le jean.
Ouais.
On est d'accord. Ça s'appelle Rude Haven. Donc the Haven, c'est le port, et Rude, j'en sais rien.
Ah. Quelle déception, Jean-Marc. Je sais pas, j'ai un anglophile comme toi, anglophone et anglophile.
Rude, j'ai pas trouvé.
Et donc.
Et donc, c'est publié chez Rue de Sèvres.
Oui.
Dessiné par Benoît Socal.
Oui.
Et à la commande, donc au scénario, François Chuitem. Alors, c'est des gens qu'on connaît.
Bien sûr. Ben, Benoît Socal, c'est évidemment Canardo, les aventures de Canardo, le fameux inspecteur. Ah ben oui, il a fait beaucoup de choses, mais les deux ont fait beaucoup de choses. Hein. Ce sont des références dans la bande dessinée.
Les Chuitem, les frères Chuitem.
Oui, Chuitem et Peters, oui.
Moi, je les appelle les frères Chuitem.
Oui, voilà.
Ils ont fait beaucoup de choses.
Ils ont fusionné, en fait. Oui. Donc, les Cités Obscures, la série des Cités Obscures.
Voilà, tout ce qui est architectural, c'était magnifique.
Exactement.
Et Socal, moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai choisi cet album, c'est qu'il a un don d'adaptation.
Oui.
Il arrive à changer de style. Parce que là, ça n'a pas grand-chose à voir avec Canardo.
Non.
Et surtout, il dessine des vrais personnages.
Oui.
Mais là, on est dans une histoire, moi, qui m'a un petit peu perturbé, encore une fois.
Jean-Marc, jusqu'où es-tu perturbé?
Non, mais ça m'a fait penser à... au Captain Ahab.
Oui, à Moby Dick, effectivement, d'Herman Melville.
Et il y a Jonas la baleine.
Oui, il y a ça aussi, quelque chose de biblique. De toute façon, c'est tout un système de référence de la culture des baleiniers. Donc forcément, tu as ça. Tu as ça avec les monstres marins maudits qui font sombrer les navires et les marins. Voilà. Et il y a cette forme d'histoire ici, à ceci près que... voilà, c'est aussi, je pense, du point de vue de la place de la technologie, et encore, bon, elle est un peu en retrait, presque, ça peut s'apparenter ou faire penser un petit peu par moment, je dis bien par moment, à Jules Verne.
Mais quand on ouvre, je viens d'ouvrir le...
sur la double page, hein, oui, voilà, des pages de garde.
Là, c'est Moby Dick. Hein.
Oui, ah, mais d'ailleurs, elle est magnifique.
Ouais, c'est très beau.
Oui. Oui, oui, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, on voit des marins sur justement un canot d'une baleinière en train de tenter de harponner justement une baleine. Voilà. Et la queue se dresse et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, va-t-elle avec sa queue briser la barque qui la talonne?
Quand on regarde, il y a des chances. Hein.
Oui, ça va peut-être mal se passer. Donc... Alors, on a une très jolie ouverture. Hein. Je vois que tu viens d'ouvrir l'album et il y a donc trois cases en format panoramique qui passent de l'écume à l'intérieur d'une maison. Voilà, l'écume de la mer.
Merci, maman.
Ouais. Allez, poursuis, Jean-Marc. Allez, je te soutiens. Je suis avec toi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans l'eau tout de suite.
Oui.
Et puis après, on va se rendre compte qu'il y a des histoires d'oiseaux aussi. Tout ce qui tourne autour de ce monde. Parce que là, on est dans un port qui s'appelle Rude Haven. Et bon, mais dans ce port, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Non.
Bah, il y a un pub.
Mmh, oui. Il y a des marins qui, effectivement, racontent. Oui, il y a des marins qui boivent et qui racontent des histoires totalement effrayantes. Effectivement, d'avoir donc dans leur connaissance d'autres marins qu'ils ont vu mourir sous leurs yeux suite à une rencontre avec un monstre dont ils n'ont vu qu'une partie à la surface de la mer, sous la forme d'une immense mâchoire qui, justement, a broyé leur bateau.
Et qu'ils m'ont rencontré.
Oui, et justement, comme ils sont absolument hantés par ce traumatisme, eh bien, ils vont voir cet épisode sanglant ressurgir lorsque une étonnante créature géante, en fait en forme de crabe, va s'échouer sur la plage, justement, à proximité de ce port.
Alors ça commence au moment où l'un des protagonistes sort du pub.
Mmh, oui. Et il fait son petit pipi nocturne hein, sur la plage.
Voilà. Et puis il vient en courant au bar en disant au pape pardon, en disant il y a un monstre là-bas, et on le prend pour un fou.
Mm-hmm.
Et en fait, quand ils se rendent tous là-bas, mm-hmm. effectivement, on a une espèce de crabe énorme.
Mm-hmm.
Qui n'a pas fini de révéler ses secrets, parce que...
Oui, il est composite, en fait. C'est une créature dont on ne sait si elle est vivante ou si elle est liée à... Comment dire à, si c'est une machine ou si c'est un animal. On ne sait pas vraiment.
Ouais, parce que
un mélange des deux.
On peut penser au Nautilus. Aussi,
oui, voilà, exactement. Et puis, surtout, il y vit une jeune femme. Et on ne sait pas, dans les premières pages de l'album, si, en fait, elle fait partie intégrante de cet animal, machine, ou si, n'en faisant pas partie, elle s'en sert comme moyen de transport. Voilà, pour arriver aussi, jusqu'à ce port. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un jeune... professeur,
oui.
Scientifique.
Oui, qui s'intéresse au monde marin.
Voilà, qui est très mal reçu au début mm-hmm.
oui.
par les marins.
Parce ben, que c'est l'affrontement entre d'un côté les croyances et de l'autre la rationalité de la science.
Voilà, c'est le Loch Ness, est-ce que oui. ça existe
ouais. Oui, voilà, et si ça existe, comment on peut le qualifier exactement
mm-hmm. Mm-hmm. Donc il va être très mal reçu.
Oui, parce que lui ne veut pas choisir de camp. Il ne s'agit pas de détruire la créature, il ne s'agit pas de se venger. Pour lui, ça n'a absolument aucune importance. En plus, il est jeune, il n'est pas du coin, il ne connaît absolument rien sur l'histoire de cette communauté de pêcheurs et de baleiniers. Par conséquent, il est totalement neutre. Effectivement, il va faire la connaissance de cette jeune femme.
C'est lui qui va la découvrir.
Hein. Exactement. Et il va par sa bouche, apprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'où elle vient, pourquoi elle est là, et ça prend, effectivement, le récit prend un côté complètement fantastique.
Oui, en plus, cette fille, elle est quand même assez space, comme on dirait aujourd'hui.
Elle fait partie d'une communauté de survivants, de naufragés,
oui,
sur une île
oui.
qui n'en est pas une. Voilà, on ne va pas tout raconter, mais bon, quand même raconter une partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des créatures marines fantastiques qui entretiennent des relations de proximité avec les êtres humains. Et il se trouve que, une petite communauté de naufragés se trouve à se réfugier sur le dos d'une baleine très particulière.
Essentiellement des filles, hein. Il y a un ou deux garçons.
Oui, voilà, exactement. Mais parce qu'évidemment, il y a des descendants. Hein, ils font partie d'une énième génération. Mm-hmm. Et ils ont toujours vécu, en fait, sur le dos de cette baleine. Mais le problème, c'est que, en fait, les choses changent. C'est-à-dire que... Enfin, les choses changent. En fait, la baleine change de position et commence à remonter vers le nord. En fait, et de ce fait, leurs conditions de vie commencent à changer. Et cette communauté humaine s'aperçoit que ces conditions de vie changeant, elles ont besoin, enfin cette communauté a besoin, pour survivre, de changer, c'est-à-dire de se séparer de ce sur quoi, enfin de cette île baleine sur laquelle ils vivaient. Voilà. Enfin, sur laquelle ces gens vivaient.
J'ai compris, pas de
oui.
problème.
Donc alors... sinon, en ce qui concerne le style de l'album...
Non, c'est très bien dessiné.
Mmh. Il y a une pointe d'humour noir. Hein. Donc le récit est un récit qui effectivement a toujours, comme chez Sokal, une dimension tragique, c'est-à-dire on sent que le drame est inéluctable, mais d'un autre côté il y a des moments où il y a une petite pointe d'ironie, d'humour noir, qui fait que il y a des scènes qui se transforment, enfin qui pourraient être tendues et qui finalement deviennent drôles. Mmh. Oui.
Et puis l'aventure entre le professeur, enfin, oui. Le jeune professeur et puis la jeune femme du bateau.
Oui.
C'est assez surprenant.
Surprenant et en même temps très classique, hein. Tu t'attends évidemment à ça. Moi je pense que c'est ça qui m'a peut-être le plus, entre guillemets, un peu lassé, c'est que effectivement l'ouverture est assez fantastique et
Ouais, après, c'est prédictible.
Oui. Après, oui, je dirais que c'est toujours le problème avec le fantastique, c'est que moi, je trouve toujours que ça fonctionne mieux sur des récits courts. Je suis assez fan d'Edgar Allan Poe, et en fait, dès que tu commences à rentrer dedans, t'as intérêt à ce que ce soit vraiment solide. Si effectivement, ça devient d'un romantisme évanescent, là, par contre, tout l'intérêt, je dirais, de la réflexion que le fantastique apporte, ou encore de la magie, de la poésie, ou encore de la peur que ça peut susciter, risque de tomber à l'eau. Voilà, c'est un peu ce que je pense.
Tomber à l'eau, c'était une belle image.
Oui, c'est une excellente image, oui, tout à fait. Alors sinon, la mise en page est très intéressante, parce que là, on est essentiellement sur des cases qui sont disposées de façon toujours panoramique, en fait. Donc tout en longueur, la plupart
c'est
du temps.
C'est toujours horizontal, oui. Quasiment.
Oui, tout à fait.
Ce qui est très logique par rapport au panoramique qu'on peut avoir sur...
De la plage, oui.
De la plage.
Mm-hmm. Oui, de l'horizon. En fait, c'est le style du récit est vraiment structuré sur l'horizon. Mais un horizon qui est quand même en grande partie bouché, parce que en fait, autant tu vois donc l'horizontalité de la plage, mais tu n'as pas en fait à proprement parler d'horizon. C'est toujours, les horizons sont toujours plus ou moins bouchés chez Sokal.
On a un horizon, mais on n'a pas de profondeur.
Oui. Mm. Disons que oui,
mais
c'est
par
pas.
Par contre, moi j'aime bien ces vagues, etc.
Moi j'aime beaucoup les harmonies de couleurs.
Non, mais c'est très bien fait.
Dans des tons bleus, en fait, c'est vraiment beaucoup de demi-teintes. Il manie remarquablement la couleur. Moi, je trouve que c'est un album sur lequel il a fait... Enfin, il dessine toujours très bien. Mais moi, je trouve qu'il y a une plus grande élégance. On voit mieux que pour la série des Canardos, en fait, à quel point il dessine bien. Et à quel point il a le sens de l'ambiance, en fait, liée à la couleur. Et puis, bon, toi-même qui aimes le dessin et qui dessine, en fait, tu vois bien que c'est pas fait à l'ordinateur, quoi.
Pas tout.
Oui, tout, mais tu as vu quelques endroits où c'est fait à l'ordinateur.
Un peu, mais c'est pas une critique.
Oui.
Il y a des fois, quand on veut faire un dégradé de ciel, c'est plus pratique de le faire sur ordinateur.
Oui.
Mais ça, c'est pas forcément grave.
Mm-hmm.
Non, je regardais La Petite Sirène, hein, parce qu'on y pense, il y a des références.
Il y a de ça, effectivement, avec cette jeune femme qui, comme chez Sokal souvent, ressemble à une créature évanescente, marquée par le destin. Enfin bon, c'est toujours la femme fatale. Oui, tu as émis un soupir qui le laisse penser. Oui, tu es d'accord.
Ah oui. Fatale pour l'homme.
Oui, fatale. Donc on redonne le nom.
Elle me fait penser aussi à la Gorgone.
Pourquoi ?
Je trouve qu'elle a un côté un peu serpentin dans les cheveux.
Ah, parce qu'elle a des cheveux, une longue chevelure blonde qui flotte au vent. Mais enfin, la Gorgone, tu connais la puissance de son regard et le fait qu'elle pétrifie. Donc moi, je ne l'associerais pas à la Gorgone.
Bon, d'accord.
Oui, donc non, Jean-Marc, non. Alors, nous rappelons le titre de l'album, donc Aquarica.
Aquarica, donc c'est comme America, mais oui, ils mettaient voilà. Aqua.
Oui.
C'est Benoît Sokal, oui. Et François Chuitan.
Oui.
Et c'est Rue de Sèvres.
Oui, tout à fait. Exactement.
C'est pas très, très connu.
Non.
De mon côté, non.
Non, du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? As-tu un prix derrière l'album ?
Je ne mettrai pas prix. Hein. 18.
Ah ben, nous sommes sur du 18 euros, oui. Voilà.
Il y a deux albums.
Oui.
Deux,
et effectivement, c'est en deux parties et cette première partie, c'est la première partie. Voilà.
Voilà.
Oui, soyons implacables. Soyons tautologiques. Oui. Eh bien, une petite pause.
Musicale.
Oui. Alors,
si vous vous sentez bien au chaud chez vous, vous avez de la chance. Ça, c'était Le Prisonnier. Lui aussi, normalement, il est bien,
oui,
bien casé.
Et le numéro 6.
Le numéro 6, mais la fin du feuilleton nous dira.
Et pas le numéro 5 de Chanel. Donc le numéro 6, Le Prisonnier. Donc il s'agissait du générique de cette fameuse série des années 60. Voilà.
Que tout le monde connaît.
Oui, surtout toi, Jean-Marc. Tu es absolument imbattable sur les détails du Prisonnier. Et pourquoi avons-nous choisi ce générique, justement ?
Et parce que ça nous emmène vers un personnage qui est surprenant, parce que, comme le prisonnier dans son village de Portmarine, au Pays de Galles, qui existe d'ailleurs, il y a des journées qui disparaissent, il ne sait plus quel jour c'est, il ne sait plus... c'est ses amis qui lui expliquent, ça lui pose des problèmes au niveau professionnel, etc. Mm-hmm. Il n'arrive pas à se repérer.
Alors je te pique l'album pendant que tu parles. Oui, ça s'appelle « Ces jours qui disparaissent » de Timothée le Boucher. Et c'est chez Glénat.
Mais c'est pas tranchant, hein, le Boucher.
Oh, oui. Alors on va parler peut-être un petit peu de lui parce que c'est un phénomène, hein, étant donné que il est né en 1988, il a fait donc l'école européenne supérieure de l'image, donc à Angoulême, EESI, et donc déjà pour son premier album, donc Skins Party. En 2011, il avait été sélectionné donc, pour la compétition du Festival d'Angoulême en 2012. Mmh. Et là, en 2017, eh bien, c'est à nouveau la même chose. Le festival va avoir lieu en début d'année. Et donc, il a à nouveau, pour cet album, été sélectionné en sélection officielle donc, pour Angoulême. Eh bien, il le mérite.
Ah, mais graphiquement, c'est superbe.
Oui. L'histoire est extraordinaire et c'est visuellement absolument magnifique. Donc, c'est un album exceptionnel.
Ça ferait un très bon film.
Oui.
Et en plus, il a cette façon de ne pas se sentir obligé de mettre des bulles tout le temps.
Mais il y a une ouverture qui est, qui est sans bulles. Hein.
Non, mais c'est complètement graphique.
Oui. C'est de la bande dessinée totale, en fait.
Non, c'est très très beau.
Alors, l'histoire, c'est celle d'un jeune homme, donc Lubin Maréchal, qui est acrobate, qui mène une vie, je dirais, d'artiste, et qui, avec des amis, a monté une troupe dont le but est de faire une représentation à la fois musicale, donc artistique, très aboutie, avec de la magie. Et il se trouve qu'un jour, il se rend compte qu'il saute des journées, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, durant certains jours, ce qu'il a fait. Et il réalise que, en fait, une autre partie de lui prend le dessus durant ces jours-là. Donc, c'est un album qui, si on devait utiliser un terme de médecine, hein, de psychiatrie, parle de schizophrénie.
Oui.
C'est-à-dire, mais en même temps, c'est pas la schizophrénie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire de gens qui doivent absolument se faire interner le temps des crises.
C'est un dédoublement de personnalité.
C'est un dédoublement de personnalité et en même temps, il ne passe pas par les phases hallucinatoires qui sont propres aux schizophrènes. Donc, en fait, il s'endort et tout simplement, quand il se réveille, il réalise que des jours sont passés.
Ouais.
Il commence par perdre 24 heures de temps en temps.
Après, c'est plus grave.
Et après, effectivement, il va perdre de plus en plus de jours et s'apercevoir que les jours perdus sont vécus par un autre lui, son alter ego qui est complètement à l'opposé de lui en termes de personnalité. Et donc, les deux personnalités vont s'affronter. Et l'une va vouloir prendre le dessus sur l'autre, à travers leurs histoires amoureuses, à travers leur vie.
Oui, mais parce toujours... que ça lui complique beaucoup la vie quand même.
Oui. Ben, en fait, il perd de plus en plus de jours. C'est-à-dire qu'on a toujours le même point de vue, le point de vue de Lubin, maréchal, en tant qu'artiste acrobate. L'autre personnalité est celle, je dirais, d'un jeune homme plus pragmatique, qui a une philosophie de la vie complètement à l'opposé, qui veut réussir au niveau professionnel et qui finalement va devenir donc un chef d'entreprise particulièrement brillant. Et justement, à travers cette histoire, il y a aussi en arrière-fond la critique de l'opposition entre deux philosophies du monde. D'un côté, la philosophie, je dirais, altermondialiste, et de l'autre, la philosophie capitaliste.
Ne faisons pas de politique, hein, Radio B.
Bah, il faut bien en parler un petit peu, Jean-Marc, parce que c'est le propos de l'album.
Voilà. Non, mais c'est un super album.
Mm-hmm. Il est absolument magnifique.
Moi, j'aime beaucoup le dessin.
Oui, le personnage est extrêmement touchant, extrêmement attachant. Et le personnage est remarquablement travaillé. Il faut dire que bon, la question de personnage, personnalité, en fait, persona presque au sens du masque, puisque bon, c'est un comédien, le mot personnage est complètement traité, quoi, en fait.
Non, mais c'est très très bien.
Oui. Et remarquablement dessiné.
Oui, une ligne plus claire, tu meurs.
Oui, plus claire, tu meurs. Oui.
Parce qu'il n'y a quasiment pas d'ombre.
Mm-hmm. Oui. Ça, ah oui, puis un découpage, oui, absolument somptueux, avec un rythme aussi du récit, avec la façon dont le personnage principal, enfin l'analyse du regard, la relation à la famille, c'est vraiment extrêmement riche. Ça se lit à plusieurs niveaux et c'est très bouleversant.
Ok, donc je vais vous rappeler... Pardon, tu voulais parler ?
Non, je te laisse rappeler le titre, parce qu'en fait on n'a pas besoin finalement d'en parler beaucoup, étant donné que je pense qu'on conseille vraiment... intensivement de...
Dépêchez-vous, parce oui. que c'est jours qui disparaissent.
Oui, voilà, exactement.
Il ne reste pas beaucoup de temps avant Noël.
Oui.
Par Timothée le Boucher.
Oui.
Pas le charcutier, le boucher. Chez Glénat.
Exactement. Est-ce que tu as un prix pour cet album ?
Ah, je vais regarder, tiens, c'est une bonne question. Mais non.
Non ? Il doit être aux alentours de 20 euros, quelque chose comme ça. Je pense qu'un bel album comme ça, ça doit être aux alentours de 22 euros. Enfin bon.
Non, mais ça vaut le coup, c'est très très bon.
Ah oui, 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 tout à fait. C'est une merveille, c'est certainement. Enfin, je souhaite qu'il ait un prix à Angoulême.
Monter jusqu'à 30.
Oui, voilà, allez, 50. Bon, très bien. Eh bien, une petite pause musicale, hein, qu'en penses-tu ?
Oui, tu es d'accord. On va finir après.
Sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana.
passion de druide et de magie. Tout attribu, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.
Alors Jean-Marc, qu'avons-nous écouté?
Manon.
Oui, très jolie chanson, hein.
Ah, ça fait un peu breton, mais ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien, parce qu'effectivement, c'est tout à fait dans l'ambiance de l'album d'Éric et Nino, qui s'appelle La Horde du Contrevent, d'après l'œuvre d'Alain Damasio. Donc c'est le tome 1, voilà, Le Cosmos et mon campement. Alors on va parler un tout petit peu d'Alain Damasio. Il est né en 1969 à Lyon. Il est auteur de romans de SF, dont le plus célèbre est La Horde du Contrevent, qui a été publié il y a de cela maintenant 13 ans, en 2004, et qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006. Alors la particularité de ce roman, c'est qu'il a été publié avec un CD de musique et la numérotation des pages est à l'envers. Donc en fait, elle commence à la page 500 et quelques, se termine à la page 0, voilà. Donc il y a plusieurs narrateurs qui font partie donc de la horde du contrevent, c'est-à-dire que ici il s'agit d'un album de science-fiction et le monde est balayé par des vents qui sont des vents mais extrêmement violents, je dirais notamment l'un d'entre eux qui s'appelle le Furvent. Donc contraction de vent et furieux, hein, je pense, et qui est particulièrement dangereux parce que il doit atteindre certainement la puissance des ouragans, mais sans effet de tornade, et il balaye tout. Et justement, en fait, abîme les villages, tue les gens. Et justement, la fonction de la horde du contrevent, c'est que c'est un groupe humain qui a pour fonction de remonter le vent à contresens pour trouver l'origine du vent, c'est-à-dire
c'est un peu des pompiers.
Façon, c'est-à-dire qu'ils vont d'ouest en est pour remonter à l'amont du vent et trouver, en fait, selon une croyance de la horde, ce que l'on appelle l'extrême amont, c'est-à-dire la source de tous les vents, afin de pouvoir faire cesser justement ces vents qui balayent la terre et qui empêchent les humains de se développer.
Alors, est-ce qu'il y a une source de tous les vents?
Alors là, c'est purement...
c'est la première partie.
La croyance, oui. En fait, ce que l'on voit, c'est plutôt la puissance de la croyance en cette source de tous les vents qui fait que toute la société s'organise pour lutter contre ce fléau naturel.
Et c'est une chose qu'on retrouve dans plusieurs civilisations. Quand il y a quelque chose qui est mauvais, il y a une source.
Oui, il y a toujours en fait un mythe, un mythe avec l'origine du mythe.
Voilà,
donc forcément, tu peux appeler ça la source du mal ou la source du bien, mais une histoire avec un développement qui fait que, en fait, quand on désire que le mythe ne se développe pas, c'est-à-dire ne soit pas dans la répétition de la fatalité qui amène les hommes à avoir, par rapport à ce phénomène, une place donnée qu'ils ne peuvent pas changer, donc les hommes décident effectivement de remettre en question le mythe, de le casser, d'aller en quelque sorte aux sources du mythe pour pouvoir inverser la dictature du mythe qui les réduit à l'état, je dirais, de ceux qui subissent.
Parce qu'en fait, cette horde du contrevent, ils sont motivés par ça.
Oui.
C'est-à-dire que si il n'y a plus ce contrevent, ils n'ont plus de raison d'être.
Mais en même
temps, je suis méchant quand je dis ça. Mais
oui, mais d'un autre côté, ça leur coûte tellement envie et de faire cela. Bien sûr que c'est leur raison d'être, puisque c'est leur identité. Mais d'un autre côté, ce qu'ils subissent en fait tout au long de cette lutte est tel que leur désir est le plus fort, c'est-à-dire que ça cesse. Parce qu'en fait, c'est ce désir... du bonheur. En fait, ils attendent que le vent cessant, ils puissent enfin pouvoir avoir une vie, se reposer. C'est-à-dire pouvoir voir les arbres pousser, je veux dire...
Protéger l'environnement.
Voir l'humanité, en fait, voir l'humanité se répandre sur Terre, puisque, comme je te le disais, à cause justement de ces vagues de vent, très régulièrement, des villages sont détruits. Et donc, le dessin est absolument magnifique. Hein. Eric Hennino a pris le risque d'être à la fois le dessinateur et le scénariste.
D'accord. Oui. C'est assez intéressant.
Oui, moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir que chacun a une fonction au sein de ce groupe. Et justement, il y a celui, le traceur, qui ouvre le groupe, c'est-à-dire qui est un petit peu comme, tu sais, les équipes de cyclistes au Tour de France. C'est lui qui fend le vent pour que les autres, en fait, puissent suivre. Et à l'intérieur du groupe se trouve celui qui est là pour, en quelque sorte, motiver tous ceux qui suivent à continuer de suivre. Et donc, c'est une équipe composée de spécialistes du vent, de médecins, tu vois.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avancent toujours.
Oui.
Ils se retournent jamais.
Non.
Et ça m'a rappelé un roman de science-fiction.
Oui.
De Christopher Priest.
Oula. Attention, référence.
Ouais, qui s'appelle Le Monde Inverti.
D'accord, Le Monde Inverti. D'accord. Et de quoi est-ce que ça parle ?
Ben, c'est une cité qui est construite sur des rails. Hein, et il faut qu'elle avance et qu'elle suive un point.
D'accord.
Optimum.
Oui.
En ayant crainte, autrement, que tout s'arrête.
D'accord.
Et ça dure très... C'est assez intéressant. Ça dure très longtemps, jusqu'au moment où la vigne sur des rails arrive au bord de l'océan.
D'accord.
Et ne peut plus avancer.
Oui.
Et là, les gens se rendent compte à nouveau qu'en fait, ils pouvaient vivre dedans. Voilà, excusez-moi.
Non, c'est intéressant de...
Mais ça m'a fait penser à ça un petit peu.
D'accord.
Bah là, c'est-à-dire que tant qu'on a un point, tant qu'on a un objectif, tout est possible.
Oui, en vivant dans l'espoir qu'on arrive à cet objectif.
Mais il ne faut surtout pas y arriver. Ça vous fait courir. Mais le problème, c'est que quand on arrive à l'objectif, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on va faire après ?
Après, eux, ils vivent dans une société où la horde a quand même une fonction très particulière. C'est-à-dire que, effectivement, l'ensemble de la société humaine attend qu'ils arrivent effectivement à faire cesser ce vent. Donc ça fait 800 ans que ça dure et eux sont... ce groupe humain représente la 34e horde et espère être celle justement qui aboutira. Et en fait, ils vont à contresens du vent au moment où commence le récit depuis 27 ans. Donc c'est assez impressionnant en fait, ça représente vraiment la pugnacité même. Alors le dessin est absolument magnifique, c'est totalement somptueux, c'est extrêmement fin les paysages, enfin bon c'est... Moi j'ai trouvé ça absolument magnifique, très agréable à regarder, on se délecte en fait.
On est un petit peu dans l'école, j'allais dire Giraud, Moebius.
Exactement. Enfin, c'est le même. Tout à fait. Et en fait, on s'attache aux personnages.
Très agréable, ouais.
Oui. Et effectivement, au début, je me disais, mais bon, les personnages, on ne les reconnaissait que par la différence de la façon de s'habiller, la place qu'ils ont justement au sein du groupe lorsqu'ils avancent à contre-vent. Et puis, petit à petit, en fait, par petits bouts, par bribes, se construit pour chacun leur histoire. Donc c'est pour ça que c'est au fur et à mesure de leur avancée contre le vent que en fait se distinguent les personnages entre eux et en même temps la façon dont ils gèrent leur part d'individualité et leur part collective. C'est-à-dire comment ils existent au sein du groupe, individuellement et collectivement. Et c'est vraiment pour ça très bien fait. Au début je me disais, oula, j'ai du mal à suivre. Je veux dire, j'arrive pas à m'attacher au personnage, mais... Vraiment, c'est à la moitié de l'album que là, ça gagne en densité humaine.
Donc, on va en reparler un petit peu.
Oui.
Donc, ça s'appelle...
La Horde du Contrevent.
Contrevent.
De Eric Hennino, voilà. C'est le premier volume.
D'après l'œuvre
d'Alain Damasio. Et donc, c'est le volume 1, Le Cosmos voilà. Et mon campement. Ouais, chez Delcourt. Voilà. Alors, y a-t-il un prix ?
Y a-t-il un prix ? DE 38.
Non, ce n'est pas ça. Non, c'est le code barre.
Non, mais c'est marqué le code prix DE 38.
Voilà. Oui, voilà. Donc, bon.
Ouais, ça doit être à peu près comme les autres.
Oui, exactement. Donc, on est aux alentours de 20 euros. Oui, donc il va falloir nous séparer, Jean-Marc. Là, c'est un petit peu brutal, mais bon.
On se retrouvera.
Oui, on se retrouvera, Jean-Marc. Oui.
Bon, merci à tous nos partenaires.
Exactement.
Voilà, donc Montbarbon.
Oui.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Et puis.
J'attends, effectivement. Je me demande comment tu vas.
Tricher, c'est ça. Oui. Non, les sectes.
Bon. J'ai pas fait. Les médiathèques de la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà.
Les sectes de lecture.
Oui, les sectes de lecture. C'est-à-dire, en fait, oui, ces médiathèques dans lesquelles chacun d'entre nous peut pousser la porte. Oula, non, je ne veux pas entendre ça. Donc, on pousse la porte et donc on trouve un fauteuil confortable et on peut lire sans forcément être abonné à la bibliothèque. On peut aussi s'abonner, c'est encore mieux.
Ouais. Mais on peut aussi assister à des conférences intéressantes.
Oui, tout à fait. Et on a une très belle collection de bandes dessinées que l'on peut lire tranquillement dans un fauteuil confortable.
N'hésitez pas,
exactement. Eh bien, au revoir, Jean-Marc.
Au revoir.
Non, je t'en prie, ne pars pas.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des
clip, crop,
des...
bang,
des...
Clop,
et des...
Zip, shabam, pa, blanc, whizz.